Alberto et Sophie restèrent un moment à rire sur le perron. « Allez, rentrons !» finit par dire Alberto. « Je voudrais te parler de Freud et de sa théorie de l'inconscient. » Ils retournèrent s'asseoir près de la fenêtre. Sophie regarda l'heure et dit « Il est déjà 2h30 et j'ai encore beaucoup à faire pour préparer la fête au jardin. » « Moi aussi. Je vais juste te dire quelques mots sur Sigmund Freud. C'était un philosophe ? Oui, en quelque sorte. Freud est né en 1856 et il étudia la médecine à l'université de Vienne. C'est là qu'il vécut presque toute sa vie, à une époque où cette ville était un des grands centres culturels d'Europe. Très vite, il se spécialisa dans la branche de la médecine qu'on appelle la neurologie. Vers la fin du 19e et durant une bonne partie du 20e siècle, il travailla à sa psychologie des profondeurs, ou psychanalyse. Je compte sur toi pour me donner quelques explications. Le terme de psychanalyse recouvre à la fois une description de l'âme humaine en général et une méthode pour soigner les souffrances nerveuses et psychiques. Je n'ai pas l'intention de te brosser un tableau complet de Freud ou de ses activités, mais sa théorie de l'inconscient est tout à fait indispensable pour comprendre ce qu'est l'homme. Tu as piqué ma curiosité, alors continue. Freud pensait qu'il existe toujours une relation conflictuelle entre un homme et son milieu. Il s'agit plus exactement d'un conflit entre, d'un côté, les pulsions et les désirs de l'homme, et de l'autre, les exigences du monde qui l'entoure. On peut dire sans exagération que Freud est le premier à avoir découvert la vie pulsionnelle des hommes. Cela fait de lui un des représentants les plus importants des mouvements naturalistes qui ont tant marqué la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce que tu entends par la « vie pulsionnelle des hommes » Il n'y a pas que la raison pour guider nos actions. L'homme n'est pas un être purement rationnel, comme ont voulu nous le faire croire les rationalistes du XVIIIe siècle. Bien souvent, ce sont des impulsions irrationnelles qui déterminent ce que nous pensons, rêvons ou faisons. Ces impulsions irrationnelles peuvent être l'expression d'instincts ou de désirs profonds. La pulsion sexuelle de l'être humain, par exemple, est quelque chose d'aussi fondamental que le besoin de succion chez le nouveau-né. Je comprends. En soi, ce n'est peut-être pas quelque chose de nouveau, mais Freud montra que ce genre de besoins fondamentaux peuvent apparaître déguisés, masqués et ainsi diriger nos actions sans que nous en soyons conscients. Il montra en outre que les petits-enfants aussi ont une sorte de sexualité. Qu'il ait osé parler de sexualité infantile ligua toute la bonne bourgeoisie de Vienne contre lui et le rendit très impopulaire. Ça ne m'étonne pas. Nous parlons de l'époque dite « victorienne », c'est-à-dire sous le règne de la reine Victoria d'Angleterre, où tout ce qui avait trait à la sexualité était tabou. Freud avait pris conscience de la sexualité des enfants dans le cadre de son travail en tant que psychothérapeute. Il possédait aussi certains éléments de nature plus empirique, en remarquant que de nombreuses formes de névrose ou de souffrance psychique pouvaient remonter à des conflits dans l'enfance. Petit à petit, il mit au point sa méthode thérapeutique en pratiquant ce que nous pourrions appeler une archéologie de l'âme. Ça veut dire quoi au juste? Un archéologue essaie de retrouver les traces d'un lointain passé en pratiquant des fouilles à travers différentes couches de civilisation. Il tombera peut-être sur un couteau du XVIIe. En creusant plus profondément, il trouvera un peigne du XIVe siècle. Et encore en dessous, qui sait? Une cruche du 5e siècle. Ah ! Ainsi, avec l'aide de son patient, le psychanalyste peut creuser dans la conscience de ce dernier pour faire ressurgir les expériences qui ont un jour provoqué des souffrances psychiques chez cette personne. Car, selon Freud, nous gardons enfouis au plus profond de nous tous les souvenirs du passé. Je comprends mieux maintenant. Il fait remonter à la conscience du patient une expérience douloureuse que ce dernier a essayé d'oublier pendant toutes ces années, mais qui est finalement restée enfouie dans les profondeurs et a miné de l'intérieur les capacités de cet homme. En faisant ressurgir cette expérience traumatisante dans le champ de la conscience, en la mettant pour ainsi dire sous le nez de son patient, ce dernier peut enfin régler son compte avec elle et guérir. Ça paraît logique, mais je brûle les étapes. Examinons tout d'abord la description que fait Freud de l'âme humaine. As-tu déjà observé un nouveau-né? J'ai un cousin qui a maintenant 4 ans. Quand nous venons au monde, nous manifestons de façon directe et sans la moindre gêne tous nos besoins physiques et psychiques. Si l'on ne nous donne pas du lait, nous crions. Même chose si notre couche est mouillée. Nous exprimons par ailleurs de manière claire et directe que nous désirons un peu de tendresse et de chaleur. Ce principe de pulsion, de plaisir en nous, Freud l'appelle le « ça ». Le nouveau-né n'est pratiquement qu'une forme de « ça ». Continue. Le « ça » ou ce principe de plaisir, nous le gardons en nous et traversons toute notre vie d'adulte avec. Mais progressivement, nous apprenons à modérer nos désirs et à nous conformer aux règles du monde qui nous entoure. Nous apprenons à laisser s'effacer le principe de plaisir devant le principe de réalité. Freud dit que nous construisons un « moi » qui exerce cette fonction régulatrice. Même si nous avons envie de quelque chose, nous savons que nous ne pouvons pas tout simplement nous asseoir et hurler jusqu'à ce que nous obtenions la satisfaction de nos désirs ou de nos besoins. Bien sûr que non. Il nous arrive souvent de désirer ardemment quelque chose que le monde extérieur nous refuse. Nous sommes donc obligés de refouler nos désirs, c'est-à-dire que nous essayons de les écarter de nous et de les oublier. Je comprends. Mais Freud mit en évidence une troisième instance dans l'âme de l'homme. Dès notre enfance, nous sommes confrontés aux exigences morales des adultes et de notre milieu. Si nous nous y prenons mal pour faire quelque chose, les parents s'exclament « Mais pas comme ça !» ou « Ce que tu peux être bête !» Ainsi, en grandissant, nous traînons derrière nous toutes ces exigences et ces préjugés moraux. C'est comme si nous avions fini par intérioriser toutes ces attentes du monde extérieur sur le plan moral et qu'elles étaient devenues une partie de nous. C'est ce que Freud a appelé le « surmoi ». Est-ce qu'il voulait parler de la conscience? La conscience fait partie du surmoi. Mais pour Freud, le surmoi nous prévient quand nous avons des désirs sales ou de mauvais goût. Cela concerne surtout, il va sans dire, les désirs érotiques ou sexuels. Et comme je l'ai dit, Freud souligna le fait que ces désirs déplacés ou pervers étaient déjà latents au stade de l'enfance. Explique. Nous savons, et nous voyons aujourd'hui, que de tout jeunes enfants aiment toucher leurs organes sexuels. Il suffit d'aller sur n'importe quelle plage pour s'en rendre compte. À l'époque de Freud, l'enfant de 2 ou 3 ans recevait, en général, une petite tape sur les doigts accompagnée de « Oh, le vilain petit garçon !» ou « Tu n'as pas honte ?» ou encore « Allez, mets tes mains bien à plat sur le drap !» Mais c'est complètement fou! On crée de cette façon un sentiment de culpabilité lié à tout ce qui a trait aux organes sexuels et à la sexualité. Et comme ce sentiment de culpabilité reste dans le surmoi, beaucoup de personnes, Freud pense qu'il s'agit en fait de la majorité, vivront toute leur vie avec ce sentiment de culpabilité lié à la sexualité. Alors que les désirs et les besoins sexuels font partie intégrante du corps de l'homme tel qu'il a été conçu. D'où, ma chère Sophie, l'éternel conflit entre le désir et la culpabilité. Tu ne crois pas que ce conflit est quand même devenu moins violent depuis l'époque de Freud? Très certainement. Mais un grand nombre des patients de Freud vécurent ce conflit de manière si dramatique qu'ils développèrent ce que Freud appelle des névroses. Une de ses patientes, par exemple, était secrètement amoureuse de son beau-frère. Quand sa sœur mourut des suites d'une maladie, elle se dit « Le voilà enfin libre de m'épouser. » Mais cette pensée se heurta à son surmoi, qui la trouva indécente et la refoula sur le champ, écrivit Freud. Il veut dire par là qu'elle rejeta cette idée dans son inconscient. La jeune femme tomba malade, présentant de graves symptômes d'hystérie, et en la soignant, je m'aperçus qu'elle avait complètement oublié la scène où elle se tenait au chevet de sa sœur et où ce désir inavouable et égoïste avait surgi en elle. Mais au cours du traitement, cela lui revint en mémoire. Elle reproduisit alors, dans une extrême agitation, ce moment pathologique et fut guérie par ce traitement. Je comprends mieux ce que tu as voulu dire tout à l'heure en parlant d'archéologie de l'âme. Nous pouvons, à ce stade, brosser un tableau de l'âme humaine en général. Après des années d'expérience au contact de ses patients, Freud parvint à la conclusion que la conscience de l'homme ne constitue qu'une infime partie de l'âme humaine. Ce qui est conscient peut se comparer à la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface de l'eau, en deçà de la conscience, il y a tout ce dont nous ne sommes pas conscients, le subconscient ou encore l'inconscient. L'inconscient, c'est donc ce que nous avons en nous, mais que nous avons oublié et dont nous ne pouvons plus nous souvenir? Toutes nos expériences ne sont pas présentes en permanence dans notre conscience, mais toutes les pensées ou les expériences qui peuvent nous revenir en mémoire, pour peu que nous nous donnions la peine de nous concentrer, forment ce que Freud appelait le préconscient. Il n'utilisait le terme « inconscient » que pour parler de ce que nous avons refoulé, c'est-à-dire toutes ces pensées et ces choses que nous nous sommes efforcés d'oublier parce qu'elles étaient inconvenantes et déplacées, voire dégoûtantes. Quand un désir est rejeté par la conscience, ou le surmoi, nous le reléguons à l'étage inférieur. Bon débarras! Je comprends. Ce mécanisme fonctionne chez tous les êtres en bonne santé. Mais certains doivent déployer de tels efforts pour refouler des pensées dérangeantes ou interdites qu'ils finissent par éprouver de réelles souffrances nerveuses. Car le refoulé tente constamment de remonter à la conscience et les personnes s'épuisent à maintenir cet équilibre artificiel entre leurs désirs et la réalité. Lorsque Freud fit des conférences aux États-Unis en 1909, il cita un exemple de ce mécanisme de refoulement. « Eh bien, je t'écoute. » Il dit à ses auditeurs qu'il fallait s'imaginer la présence d'un élément perturbateur dans la salle qui, en riant, en intervenant à tout bout de champ et en frappant du pied, gênerait son exposé au point d'obliger l'orateur à s'arrêter. Quelques solides gaillards se lèveraient probablement pour conduire manu militari l'intrus dans le couloir. Il serait donc refoulé et l'orateur pourrait poursuivre en paix sa conférence. Pour être même bien sûr qu'il n'y ait pas de nouvelle intrusion, c'est-à-dire que le refoulement a réussi, ces mêmes hommes s'installeraient avec leurs chaises devant la porte d'entrée pour servir de barrage. Il suffit de nommer la salle « le conscient » et le couloir « l'inconscient » pour avoir une bonne image du processus de refoulement. Je reconnais que c'était une bonne image, en effet. Mais le trouble fait n'a pas dit son dernier mot, Sophie. C'est en tout cas ce qui se passe avec les pensées et les pulsions refoulées. Nous vivons sous la pression constante de ces pensées refoulées qui essaient de se frayer un chemin jusqu'à la conscience. C'est pourquoi il nous arrive souvent d'avoir la langue qui fourche, c'est-à-dire de faire des lapsus. C'est ainsi que des réactions inconscientes peuvent guider nos sentiments et nos actions. De quelle manière? Freud met au jour différents mécanismes de cet ordre. Il y a d'abord ce qu'il appelle les mauvaises réactions. Nous disons ou faisons de nous-mêmes quelque chose que nous avons autrefois essayé de refouler. Il cite l'exemple de cet ouvrier qui devait un jour porter un toast à son patron. Le problème, c'était que personne n'aimait ce patron. Il était même ce que certains qualifiaient sans hésiter de salaud. Oh! L'ouvrier se leva, le verre à la main, et déclara solennellement « Et maintenant, buvons à la santé de notre cher salaud. » « Ça alors ?» L'ouvrier non plus n'en est pas revenu. En fait, il avait juste dit ce qu'il pensait réellement, mais il n'avait jamais eu l'intention de le faire. Tu veux un autre exemple ? Volontiers. Dans la famille d'un pasteur, où il y avait beaucoup de filles douces et bien élevées, on attendit un jour la visite d'un évêque. Cet homme avait vraiment un nez incroyablement long. Ordre fut donné aux filles de ne surtout pas faire allusion à son nez. Et tu sais qu'il n'y a rien de tel qu'un enfant pour vous envoyer vos quatre vérités en pleine figure. Tout simplement parce que chez un enfant, le mécanisme de refoulement n'est pas aussi au point que chez un adulte. L'évêque se rendit chez le pasteur, et les petites filles, si adorables et bien élevées, s'appliquèrent terriblement pour ne pas faire de commentaires sur son long nez. Mais ce n'est pas tout. Elles s'évertuèrent à ne pas regarder le nez du tout, à faire comme s'il n'existait pas, tout en ne pensant qu'à ça. Mais voilà qu'une des filles devait faire passer le sucre pour le café. Elle se posta devant l'évêque, si digne, en demandant « Vous prendrez bien un peu de sucre avec votre nez ?»« Oh là là, ça a dû être vraiment pénible !» Une autre solution consiste à rationaliser, c'est-à-dire que nous nous donnons toutes sortes de mauvaises raisons pour justifier nos actes à nos yeux et à ceux des autres, tout simplement parce que la vraie raison serait trop terrible à avouer. Un exemple, s'il te plaît. Je peux, sous hypnose, te faire ouvrir une fenêtre. Je commence par t'hypnotiser et te dire que tu devras te lever pour ouvrir la fenêtre dès que je tambourinerai sur la table. Je le fais et tu vas ouvrir la fenêtre. Je te demande alors pourquoi tu es allé ouvrir la fenêtre. Tu me répondras peut-être que c'est parce que tu trouvais qu'il faisait trop chaud. Mais ce n'est pas la vraie raison. Tu ne voudras pas reconnaître que tu as exécuté sous hypnose un de mes ordres. Tu auras rationalisé. Je comprends. C'est ainsi que chaque jour nous avons un double langage. Je t'ai déjà parlé de mon cousin de 4 ans. Je crois qu'il n'a pas tant d'amis que ça avec qui jouer. Il est en tout cas drôlement content quand je viens le voir. Une fois, j'ai dit qu'il fallait vite que je rentre chez ma maman à moi. Tu ne sais pas ce qu'il m'a répondu ? Je t'écoute. Elle est bête, il a dit. C'est en effet un bon exemple de ce que j'entends par rationalisation. Le garçon ne pensait pas vraiment ce qu'il disait. Il trouvait que c'était bête que tu t'en ailles, mais il avait honte de l'avouer. Il nous arrive aussi de projeter. Tu peux traduire, s'il te plaît ? Le terme « projeter » signifie ici que nous prêtons à d'autres des sentiments ou des pensées que nous avons refoulées en nous-mêmes. Quelqu'un de très avare, par exemple, reconnaîtra vite l'avarice chez autrui. Un homme ou une femme qui aura honte d'avouer qu'il ou elle s'intéresse à la sexualité aura tôt fait de critiquer les autres et les traiter d'obsédés sexuels. Je vois ce que tu veux dire. Freud prétend que notre vie quotidienne fourmille de tels exemples d'actions inconscientes. Nous oublions constamment le nom d'une certaine personne. Nous tortillons nos vêtements pendant que nous parlons ou nous déplaçons, sans nous en rendre compte, certains objets apparemment anodins. Sans parler de toutes ces fois où notre langue fourche et où nous disons des mots pas si innocents que ça. Tout cela, ce ne sont, selon Freud, que des symptômes. Ces lapsus d'action ou de langue trahissent en fait nos secrets les plus intimes. J'ai intérêt dorénavant à faire attention à ce que je vais dire. Oui. Mais tu ne pourras pas échapper à tes impulsions inconscientes. Toute l'astuce consiste justement à ne pas faire trop d'efforts pour rejeter les pensées inavouées dans l'inconscient. C'est comme quand on veut à tout prix reboucher le trou d'une taupinière dans un jardin. À force de vouloir trop bien faire, la taupe fera déboucher sa galerie un peu plus loin, c'est tout. Aussi, est-ce plus sain de laisser la porte entrebâillée entre la conscience et l'inconscient ? Et si l'on ferme la porte, c'est là que l'on risque de développer des maladies psychiques ? Oui, un névrosé est quelqu'un qui fait tout son possible pour chasser de sa conscience tout ce qui le met mal à l'aise. Le plus souvent, il s'agit d'expériences d'une telle importance qu'il est vital pour la personne de les refouler. Freud appelait ce genre d'expériences particulières des traumatismes. Le terme grec « trauma » signifie « blessure ». Je comprends. Lors du traitement de ses patients, Freud tentait de forcer cette porte close ou, à défaut, d'en ouvrir une autre. Avec l'aide du malade, il essayait de faire remonter à la surface de la conscience ses expériences refoulées. Le patient ne sait pas, lui, ce qu'il refoule. Mais il peut participer et comprendre la démarche du praticien qui est de faire ressurgir ses traumatismes cachés. Comment s'y prend le médecin ? Freud mit au point ce qu'il a appelé la technique d'association libre. Le patient est allongé dans une position décontractée et parle librement de tout ce qui lui vient à l'esprit, de futilité comme de choses graves ou pénibles. L'art du praticien va consister à casser ce couvercle ou ce contrôle qui maintient enfermés les traumatismes. Car ce sont précisément ces traumatismes qui occupent constamment le patient. Ils agissent en permanence, mais la personne ne s'en rend pas compte. Plus on fait des efforts pour ne pas penser à quelque chose, plus l'inconscient, lui, se charge d'y penser, n'est-ce pas? Exactement. C'est pourquoi il faut écouter les signaux de l'inconscient. La voie royale, qui, selon Freud, mène à l'inconscient, ce sont nos rêves. Son livre le plus important, qui parut en 1900, s'intitulait justement « De l'interprétation des rêves ». Il y explique que nous ne faisons pas des rêves comme ça, par hasard. À travers eux, les pensées inconscientes essaient de se frayer un chemin jusqu'à la conscience. Continue. Après avoir passé des années à traiter ses patients et avoir analysé leurs rêves, mais aussi les siens, Freud parvient à la conclusion que tous les rêves permettent la réalisation du désir. Il suffit, écrit-il, d'observer des enfants. Ils rêvent de glace et de cerises. Le problème chez les adultes, c'est que leurs désirs, que leurs rêves permettront de satisfaire, sont bien souvent déguisés. Car même quand nous dormons, nous exerçons une censure sévère vis-à-vis de ce que nous nous permettons de désirer. Bien sûr, cette censure, ce mécanisme de refoulement, est moindre dans le sommeil qu'à l'état de veille. Mais il reste suffisamment fort pour que dans le rêve, nous déplacions l'objet du désir que nous refusons d'admettre. D'où la nécessité d'interpréter les rêves. Freud indique qu'il faut distinguer entre le rêve, tel que nous nous en souvenons le lendemain matin, et son sens profond. Les images proprement dites du rêve, le film ou la vidéo de notre rêve, il appelle cela le contenu manifeste du rêve. Ce contenu apparent du rêve trouve toujours sa source dans les événements de la veille. Mais le rêve a un sens caché qui échappe à la conscience. C'est le contenu latent du rêve. Ces pensées cachées, qui sont ce dont parle le rêve, peuvent remonter très loin, parfois même jusqu'à la petite enfance. Il faut donc analyser le rêve pour comprendre ce dont il est question. Oui. Et dans le cas de malade, il faut accomplir cette démarche avec le thérapeute. Mais ce n'est pas le médecin seul qui interprète le rêve. Il le fait avec l'aide du patient. Dans cette situation, le médecin apparaît seulement comme une sage-femme au sens de Socrate, c'est-à-dire quelqu'un qui aide à accoucher de l'interprétation du rêve. Je comprends. La transformation du contenu latent en contenu manifeste du rêve, c'est ce que Freud a appelé le travail du rêve. Nous pouvons aussi parler de jeu de masque ou de jeu de signes quant au vrai objet du rêve. L'interprétation du rêve procède en sens inverse en démasquant, en mettant en évidence tous les signes pour dévoiler le thème caché derrière. Tu as un exemple? Le livre de Freud est truffé d'exemples. Mais nous pouvons trouver par nous-mêmes un exemple tout simple, et pourtant bien freudien. Si un jeune homme rêve qu'il reçoit deux ballons de sa cousine. Alors? Eh bien, allez, à toi de risquer une interprétation. Reprenons. Le contenu manifeste du rêve est exactement ce que tu dis. Il reçoit deux ballons de sa cousine. Continue. Tu as dit tout à l'heure que les éléments du rêve sont tirés du jour précédent. On peut penser qu'il a été la veille dans un parc d'attractions ou encore qu'il a vu une image de ballon dans le journal. Bien sûr, c'est possible. Mais dans ce cas, il aurait suffi du mot « ballon » ou de quelque chose qui fasse penser à des ballons. Maintenant, il faut mettre au jour le contenu latent du rêve, c'est-à-dire son sens profond. C'est bien ça? Oui. C'est à toi d'interpréter la signification du rêve. Peut-être qu'il a tout simplement envie d'avoir des ballons. Non, ça ne tient pas debout. Tu as raison de considérer que le rêve réalise un désir caché. Mais ce ne sont pas de vrais ballons qu'un homme a envie intérieurement de posséder. Si cela avait été le cas, il n'aurait pas eu besoin d'en rêver. Ah, je crois que j'ai compris. Il désirait en fait sa cousine, et les deux ballons, c'était ses seins. C'est en effet une explication plus plausible, la condition étant qu'il se sente un peu gêné et honteux d'avoir un désir de cette nature. Les rêves empruntent donc toujours des chemins détournés, comme l'image des ballons par exemple. Oh oui, Freud voyait dans le rêve la satisfaction masquée de désirs refoulés. Cela dit, ce que nous refoulons exactement a certainement changé de nature depuis le temps où Freud était médecin à Vienne. Mais le processus d'élaboration du rêve est assurément le même. Je comprends. La psychanalyse de Freud connut un énorme retentissement dans les années 1920, surtout dans le milieu psychiatrique, mais aussi dans des domaines comme l'art et la littérature. Tu veux dire que les artistes s'intéressèrent davantage à la vie inconsciente des hommes ? Exactement. La littérature de la fin du XIXe siècle n'avait certes pas attendu Freud et la psychanalyse pour se pencher sur la vie intérieure de l'homme. Mais ce n'est pas un hasard si Freud mit au point sa théorie de l'inconscient précisément vers les années 1890. En somme, c'était dans l'air ? Freud n'a jamais prétendu avoir « découvert » les phénomènes comme le refoulement, les actes manqués ou la rationalisation. Il a juste été le premier à voir le parti que la psychiatrie pouvait tirer de telles expériences. Il excellait aussi à émailler sa thèse d'exemples littéraires pour illustrer sa propre théorie. Mais, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout à partir des années 1920 qu'il exerça une grande influence sur l'art et la littérature. Comment ça ? Les écrivains et les peintres essayèrent dorénavant d'exploiter ces forces inconscientes dans leur propre travail créateur. Cela vaut surtout pour les fameux surréalistes. Ça veut dire quoi ? Surréalisme évoque, comme son nom l'indique, une surréalité. En 1924, André Breton publia le premier manifeste du surréalisme, où il déclare que l'art doit jaillir de l'inconscient. L'artiste doit, selon lui, retrouver dans l'inspiration la plus libre possible des images oniriques et tendre vers une surréalité où il n'existe plus de frontières entre le rêve et le monde réel. L'artiste doit passer outre la censure imposée par la conscience afin de laisser libre cours à son imagination et accueillir les mots et les images qui lui viennent. J'ai compris. Freud approuvait en quelque sorte que tous les hommes sont artistes. Un rêve est en soi une petite œuvre d'art, et chaque nuit, nous rêvons. Pour interpréter les rêves de ses patients, Freud dut recourir à toute une série de symboles, comme lorsqu'il s'agit d'analyser un tableau ou un texte littéraire. Nous rêvons vraiment chaque nuit sans exception ? Les dernières recherches en la matière montrent que nous rêvons à peu près 20% de notre temps de sommeil, c'est-à-dire 2 à 3 heures par nuit. Si l'on nous dérange pendant une phase de rêve, nous devenons nerveux et irritables. Cela revient à dire que tous les hommes sont nés avec le besoin de donner une expression artistique à leur situation existentielle. Car nous sommes la matière même de nos rêves. C'est nous qui sommes en régie, nous qui allons chercher dans notre vécu les éléments qui vont servir au déroulement du rêve, et nous qui jouons tous les rôles. En d'autres termes, quelqu'un qui prétend ne pas s'intéresser à l'art se connaît bien mal.
Je vois.
Freud avait en outre prouvé de façon magistrale l'importance de la conscience chez l'homme. Ses pratiques thérapeutiques achevèrent de le convaincre que nous gardons quelque part enfoui, au plus profond de notre conscience, tout ce que nous avons vu et vécu. Et tout peut remonter à la surface. Quand nous disons que ça nous rappelle quelque chose, que nous l'avons sur le bout de la langue et qu'ensuite ça nous revient, nous ne faisons qu'illustrer le chemin que parcourt justement ce qui était dans l'inconscient et qui trouve enfin une porte entrebâillée pour se faufiler jusqu'à la conscience.
Il y a des fois où ça ne marche pas.
Tous les artistes le savent fort bien. Mais il arrive aussi que toutes les portes et les tiroirs d'archives soient ouverts et que ça coule tout seul, les mots et les images dont nous avons besoin s'imposant d'eux-mêmes. Il suffit d'avoir soulevé un peu la chape qui recouvre l'inconscient. C'est ce qu'on appelle l'inspiration, Sophie. ce que nous écrivons ou dessinons alors ne nous semble pas venir de nous. Ce doit être un sentiment merveilleux. Mais tu as certainement dû le ressentir. Il n'y a qu'à observer le comportement d'enfants tombant de fatigue. Certains enfants sont si fatigués qu'ils donnent l'impression de dormir les yeux ouverts. Ils peuvent se mettre à parler en utilisant des mots qu'ils n'ont pas forcément encore appris. En fait, ces mots et ces pensées n'étaient présents qu'à l'état latent dans leur conscience. Et c'est uniquement quand ils oublient toute prudence et tous les interdits que ces mots sortent. C'est pareil pour un artiste. Il ne faut surtout pas que sa raison et ses réflexions après coup empêchent l'épanouissement d'une émotion plus ou moins inconsciente. Tu veux que je te raconte une petite histoire pour illustrer mon propos? Volontiers. C'est une histoire à la fois très grave et très triste. Je t'écoute. Il était une fois un mille-pattes qui savait merveilleusement danser avec ses mille pattes. Quand il dansait, tous les animaux de la forêt venaient le voir danser et tous admiraient ses talents de danseur. Tous, sauf un, qui n'appréciait pas du tout la danse du mille-pattes. C'était une tortue. Elle était simplement jalouse. Comment faire en sorte que le mille-pattes ne danse plus, se demandait-elle. Il ne suffisait pas de déclarer qu'elle n'aimait pas sa façon de danser. Elle ne pouvait pas non plus prétendre qu'elle dansait mieux que lui. Cela eût été le comble du ridicule. Aussi conçut-elle un plan diabolique.
« Dis vite !»
Elle écrivit une lettre au mille-pattes. « Ô mille-pattes incomparable !» commença-t-elle. « Je suis une fervente admiratrice de votre art consommé de la danse. Aussi, je me permets de vous demander comment vous procédez quand vous dansez. Commencez-vous d'abord par lever la patte gauche numéro 228, puis la droite numéro 59? Ou attaquez-vous la danse en levant d'abord la patte droite numéro 26, puis la patte droite numéro 499? J'ai hâte de connaître la réponse. Respectueusement, la tortue. »
Ça alors?
En recevant la lettre, le mille-pattes s'interrogea sur le champ pour savoir ce qu'il faisait exactement quand il dansait. Quelle patte levait-il en premier? Puis, quelle patte levait-il ensuite? Et que se passa-t-il à ton avis?
Je pense que le mille-pattes n'arriva plus jamais à danser.
Et c'est bien ainsi que ça se termina. Voilà ce qui se produit quand l'imagination est bridée par la réflexion de la raison.
Tu avais raison de dire que c'était une histoire dramatique.
Il est essentiel pour un artiste de se libérer. Les surréalistes essayèrent de se mettre dans un tel état que les choses semblaient venir d'elles-mêmes. Ils se mettaient devant une feuille de papier vierge et notaient tout ce qui leur passait par la tête. Ils appelèrent ça l'écriture automatique. C'est une expression empruntée au spiritisme qui pensait que l'esprit d'un mort revenait dicter ses volontés. Mais je pense que nous devrions reparler de tout cela demain.
Si tu veux.
L'artiste surréaliste est lui aussi, à sa manière, un médium, c'est-à-dire un maillon intermédiaire. Il est un médium pour son propre inconscient. Il y a sans doute un élément inconscient dans chaque processus de création. Car au fond, qu'est-ce que la créativité?
Je n'en ai aucune idée. Est-ce que cela ne veut pas dire que l'on crée quelque chose de nouveau?
Très juste. Et cela est justement le résultat d'une collaboration intelligente de l'imagination et de la raison. Cette dernière étouffe trop souvent l'imagination, et cela est grave. Car sans imagination, il ne peut jamais se produire quelque chose de vraiment neuf. En fait, l'imagination se présente comme un système à la Darwin.
Excuse-moi, mais là, je ne te suis plus.
Le darwinisme démontre que la nature n'est qu'une suite ininterrompue de mutations, dont quelques-unes seulement survivront, parce que la nature en aura précisément besoin à ce moment-là.
Oui, et alors?
C'est exactement la même chose quand nous pensons et sommes submergés de nouvelles idées. Telle pensée mutante est chassée par une autre dans le flot de la conscience, à moins que nous ne nous imposions une censure draconienne. Cependant, seules quelques-unes de ses pensées peuvent nous servir. La raison reprend ici ses droits et joue à ce niveau un rôle déterminant. Le butin de la journée, une fois étalé sur la table, il faut bien faire un tri. Elle n'est pas si mal, au fond, ta comparaison. Imagine une seconde que nous disions tout haut tout ce qui nous passe par la tête, ou que paraisse tout ce que nous écrivons dans un carnet ou laissons traîner au fond d'un tiroir de notre bureau. Le monde croulerait sous les pensées les plus accidentelles. Il n'y aurait alors aucune sélection, Sophie. Et c'est la raison qui opère cette sélection parmi toutes les idées qui nous viennent à l'esprit? Oui, tu ne crois pas? Certes, c'est l'imagination qui crée quelque chose de neuf, mais ce n'est pas elle qui décide ce qu'il convient de garder ou pas. Ce n'est pas elle qui compose. Une composition, ce qu'est toute œuvre d'art, est le fruit d'une heureuse association entre l'imagination et la raison, entre le sentiment et la réflexion. Un processus créateur possède toujours un élément qui relève du hasard. Il est important, dans une certaine phase de ce processus, de laisser libre cours à son imagination. On est bien obligé de laisser courir ses moutons si on veut après pouvoir les garder. Alberto marqua une pause et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sophie suivit son regard et vit une foule délirante au bord du petit lac. C'était un véritable défilé de personnages de Walt Disney. « Mais c'est Goofy !» s'exclama-t-elle. « Et voilà Donald et ses neveux, et Daisy, et oncle Picsou. Hey, tu entends ce que je te dis, Alberto? Et là-bas, c'est Mickey ?»«
Oui, c'est bien triste, » répondit-il en se tournant vers elle.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?»«
Nous voilà réduits à être les victimes du major qui lâche ses moutons. » Mais c'est de ma faute. C'est moi qui ai commencé à parler de tout ce qui peut nous passer par la tête.
Ne rejette pas la faute sur toi.
Je voulais dire que l'imagination est importante également pour nous autres philosophes. Car pour trouver des idées neuves, il faut oser se lancer. Mais maintenant, c'est vraiment n'importe quoi.
Ne t'en fais pas.
Je voulais parler de l'importance de la réflexion à tête reposée, et puis voilà qu'il nous envoie ces guignols.
Il ne manque vraiment pas d'air, celui-là.
Tu dis ça de façon ironique? C'est lui qui est ironique, pas moi. Mais j'ai une consolation, et c'est là-dessus que j'ai bâti tout mon plan.
Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire.
Nous avons parlé des rêves. Là aussi, il y a un brin d'ironie. Car que sommes-nous d'autres, sinon des créatures fantasmatiques du major? Il a beau faire. Il y a une chose qu'il a oubliée.
Quoi donc?
Peut-être qu'il a cruellement conscience de son propre rêve, car il est au courant de toutes nos conversations et de tous nos actes, comme le rêveur se souvient du contenu manifeste de son rêve. C'est bien lui qui tient la plume, mais cela ne veut pas dire qu'il est réveillé pour autant.
Attends, qu'est-ce que tu entends par là?
Il ne connaît pas les pensées latentes du rêve, Sophie. Il oublie que tout ceci n'est qu'un rêve déguisé.
Tu dis des choses si bizarres.
C'est bien la vie du major. Mais c'est parce qu'il ne comprend pas la propre langue de son rêve. Et c'est tant mieux pour nous. Nous disposons ainsi d'un minimum de liberté de mouvement. Et grâce à cela, nous allons pouvoir bientôt échapper à sa conscience, telles ces taupes qui vont enfin sortir de leur trou et goûter le soleil d'une belle journée d'été.
Tu crois vraiment qu'on va y arriver?
Il faudra bien qu'on y arrive. Dans quelques jours, je vais te donner un nouveau ciel et le major ne pourra plus jamais savoir où sont ses taupes et où elles réapparaîtront.
Mais même si nous ne sommes que les images d'un rêve, je n'en reste pas moins la fille de quelqu'un. Tu sais, il est 5 heures et il faut que je rentre à la maison préparer la fête au jardin.
Tu ne pourrais pas me rendre un petit service sur ton chemin de retour?
De quoi s'agit-il?
Essaie d'attirer un peu son attention. Ce serait bien si tu obligeais le major à te suivre du regard tout le long du chemin. Essaie de penser à lui quand tu rentreras. Comme ça, il sera bien contraint lui aussi de penser à toi.
À quoi ça peut servir?
Ça me laissera le champ libre pour peaufiner notre plan secret.
je vais plonger dans l'inconscient du major et y resterai jusqu'à notre prochaine rencontre. »